Et alors, par la fin, saint Thomas d'Aquin dit, la résurrection des morts qui est promise par Dieu, c'est la restauration de ce fait que la nature humaine est exceptionnelle par rapport aux animaux. Il convient à nouveau qu'on ait un corps immortel, parce que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas de purs esprits, et qu'il est bien dommage que selon la loi de notre âme, de notre esprit immortel, notre corps ne soit pas immortel comme notre esprit. L'esprit humain est comme l'esprit angélique, sauf qu'il est créé avec une science minimale pour être uni à un corps. Dieu ne veut pas d'une vie éternelle, d'un paradis, d'une vie divine. Le ciel, c'est pas le ciel lumineux, hein. Le ciel, c'est vivre avec Dieu. On compare la vie avec Dieu au ciel lumineux pendant la journée parce que c'est beau, c'est plus joli que la nuit. Peut-être que certains d'entre vous aiment bien la nuit, mais bon. On préfère un beau ciel bleu avec un soleil. Normal. Voilà. Eh bien, voyez-vous, l'âme humaine, ce qu'on doit retenir de cette première partie, c'est que l'âme humaine est immortelle par nature, parce que c'est un pur esprit. Mais contrairement aux anges qui sont des purs esprits, qui n'ont jamais été créés pour un corps, nous avons été créés pour un corps. Donc il convient que parce qu'on a un pur esprit, notre corps suive la dignité de notre esprit. Et alors même que on se mouche, on boit, on perd de l'eau, ce qu'on mange est trituré, sélectionné, on prend ce qu'on a besoin et on rejette ce dont on n'a pas besoin, eh bien, ce fonctionnement animal, corporel, matériel, de création de cellules, de mort de cellules, de division de cellules, doit être perpétuel comme l'esprit est perpétuel. Donc, hein, retenez bien cela, nous devions être immortels et nous ressusciterons immortels parce que nous avons un esprit. Parce que notre nature humaine est faite d'âme et corps. Âme immortelle, spirituelle, contrairement aux purs animaux qui ont une âme, mais qui est réduite à la matière, qui est anéantie. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ceux qui vont dire « Oh, mais Dieu est amour », il n'est pas possible qu'il y ait un enfer. Oh, c'est méchant. Vous vous rendez compte, vous êtes là, perpétuellement dans votre choix libre. Je le déteste, ce Dieu. Je l'aime pas. Je me suis toujours préféré. Je me préfère maintenant. Je veux être pour moi. Dieu, c'est un autre. Il me fatigue à vouloir que je le rencontre, que j'ai une relation avec lui. Mes parents me fatiguent. Tout le monde me fatigue. Mes amis me fatiguent. Je vis pour moi-même. J'aime bien vivre que pour moi. Je vis que pour moi. Je vis que pour moi. Mais quand vous mourrez comme ça, eh ben vous vous damnez. C'est-à-dire que vous choisissez vraiment ça. Et quand votre âme sort de votre corps, et qu'elle est jugée par le Christ, et qu'elle, n'ayant plus besoin de votre corps pour susciter sa mémoire, l'imagination, elle a toute sa pensée et tout ce qui va avec la pensée, les images, et l'imagination et la mémoire en un seul. Une seule pensée. Vous avez votre vie en une seule pensée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand votre âme ne dépend plus de votre corps. Vous avez le mode d'être des anges qui se connaissent en une seule pensée. Ce sont des purs esprits. Et nous, quand on meurt, on est un pur esprit. Et on voit notre cadavre là. Donc, quand il vient juste de mourir, si on a une crise cardiaque, il est encore joli. Ça dépend. Voilà. Mais bon, il ne faut pas rester trop longtemps, hein. Au bout de quelques heures, ça commence, les yeux deviennent vitreux, et puis dans l'estomac, les bactéries, ça fonctionne plus, on n'est pas tué comme, il n'y a pas de cycle et tout, on peut y aller. Et voilà. Ça commence par un point vert, ici. Ça part de l'appendicite en règle générale. Excusez-moi, j'ai fait de la médecine légale. Si tu as des autopsies, on m'a expliqué comment les gens mouraient, les petits machins, les meurtres. C'est pour ça que je suis parfois un peu trop cru. Et donc, voyez-vous, l'âme, elle choisit. Et quand certains vous disent, oui, mais Dieu est tellement bon, que même si vous n'arrivez pas à aimer Dieu, parce que selon une autre théorie, vous avez une illumination. L'âme sort du corps et là Jésus nous hypnotise. Et je suis amour, et je suis beau, et je suis bon. Allez, abandonne ta haine. Oh oui, Dieu est amour. Et hop. Et là, tout le monde se sauve. Ça, c'est la théorie de l'illumination. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait lu tous ces les livres de théologiens hérétiques. Et qui me dit, et qui était là, qui avait tellement peur de se damner, qui s'accrochait à cette hérésie, qui me disait, mais non, si, ça convient que Dieu nous donne une lumière de compréhension dans notre conscience après la mort, pour qu'on puisse se sauver. C'est pas possible qu'on puisse se damner, qu'on puisse refuser l'amour de Dieu, tout ça. Parce que lui, il avait peur de mourir en n'aimant pas. Et Saint François de Sales, qui était un saint homme, un homme doux, mais qui avait, par la grâce et par ses efforts de vertu, acquis cette douceur, a eu des grands moments de peur, de damnation, de scrupules. Et vous avez à Boulogne, sur Seine, la maison des sœurs de Saint Thomas de Villeneuve, qui ont la statue de Notre-Dame de délivrance
De bonne délivrance.
et de bonne délivrance. Eh bien, cette statue qui était à Paris au moment de Saint François de Sales, au XVIIe siècle, dans les années 1600, eh bien, c'est en priant devant cette statue qu'il n'a plus eu peur de se damner. Alors, elle se trouve à Boulogne. La chapelle est ouverte, pas tout le temps, mais elle est ouverte. Une Vierge noire avec l'enfant Jésus. Et Saint François de Sales n'a plus pensé au risque de se damner. Et donc, voyez-vous, d'autres vont dire, eh bien, si il choisit de se damner, Dieu va l'annihiler, comme l'âme d'un brin d'herbe, comme l'âme d'une sauterelle, comme l'âme d'un bacille, comme l'âme d'une rose, ou d'un rosier plutôt. Eh ben mince alors. On a le même destin qu'un pigeon. C'est raide. Ça s'appelle l'annihilisme. Et c'est certaines sectes protestantes et avec le temps les témoins de Jéhovah qui ont cette hérésie. Les témoins de Jéhovah considèrent, je crois, qu'il y aura 144 000 personnes qui vont être sauvées. Donc vous avez intérêt à donner, 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 donner. Hein, parce que plus vous donnez, plus vous vendez votre maison, votre appartement, vous donnez votre salaire et tout, là, comment dire, les supérieurs des témoins de Jéhovah vous disent, ah là, t'aimes Dieu, là, t'es vraiment, c'est une preuve d'amour. Hein. Hein. Donc ils sont là, pourvu que je fasse partie des 144 000. Ah oui, parce que, mais d'un autre côté, vous avez leur pasteur qui leur dit, mais ne t'inquiète pas, parce que si tu te damnes, de toute façon, tu n'existeras plus. Donc il n'y a pas d'enfer chez les témoins de Jéhovah. Enfin, on est annihilé, semble-t-il. Bon.
Si l'enfer n'existe pas, si on va tous au paradis, quel est
Oui.
l'intérêt d'avoir une vie sainte, bonne?
Aucune. Et Dieu est un grand farceur. Vous voyez? Et donc du coup, voyez-vous, la vérité est ailleurs. Mais la vérité est quand même redoutable. La mortification involontaire. Ben, Dieu va nous faire participer à cette caducité des chênes, on n'est même pas des sapins. Vous voyez? Les sapins, au moins, ils perdent pas leurs aiguilles, hein, c'est leurs feuilles. Alors, nous, on est caduques. Et alors, la grande explication, la deuxième grande explication, c'est le péché originel. Vous mourrez de mort. Donc les innocents sont enveloppés dans la même punition pour que les pécheurs ne soient pas des hypocrites terrorisés, à voir des innocents ne jamais être malades et ne pas vieillir. Dès que quelqu'un aura un cheveu blanc, toi, t'as menti. Et... ou quelqu'un qui a un cancer, tu dis, ah, dis donc, t'as fait un péché mortel. Dieu te tue. Et nous sommes tous enveloppés dans cette maladie et dans cette mort. Ce qui fait, voyez-vous, qu'il y a deux sortes de mortification involontaire. Vous avez la mortification involontaire commune à tous, de vieillir et de mourir. Vous avez ensuite des maladies. Mais on exige de Dieu quand même un certain temps sur terre. Donc quand c'est un enfant ou un bébé qui meurt, ou quand on a un bébé qui ne peut pas être retenu par le ventre de sa mère, au bout d'un mois, au bout de 5 mois, vous voyez, on a beau croire en la vie éternelle, on a beau voir que le magistère de l'Église ne parle plus d'un état de... comment dire, une âme qui, un être humain qui meurt avant d'avoir posé un acte personnel et d'avoir reçu directement l'amour et les mérites de Jésus qui meurt pour nous dans le baptême, on considérait qu'ils étaient ni damnés au sens propre, hein, puisqu'ils n'avaient pas de haine, ils avaient ni sauvés parce qu'ils n'avaient pas choisi Dieu librement, consciemment et avec la grâce de Dieu. On appelait ça la limite entre l'enfer et le ciel. Ça s'appelle limbe, limite. Un état de bonheur naturel. Ils ne méritaient pas de punition. La haine étant la plus grande souffrance des damnés, à côté du feu matériel qu'il y a en enfer. Et ils ne méritaient pas non plus la vision béatifique et la vie intime avec Dieu, parce qu'ils ne l'avaient pas choisi. Alors, objection, un petit bébé quand même, parce que vous le trempez dans l'eau, il choisit Dieu, dans son âme. Ah ben ça, oui, si, c'est un geste magique. Non, c'est un geste mystique. On lui donne directement, on demande à Dieu directement par ce geste, d'avoir les mérites de la mort, noyé dans l'eau, et de la résurrection, on sort de l'eau et on respire à nouveau. Le baptême par immersion étant le signe le plus fort de cela. Eh bien, cette réalité, voyez-vous, on a beau la recevoir comme enseignement, elle est difficile. Et si vous voulez... quand un enfant est baptisé et qu'il meurt tout de suite après, bien sûr, on se dit, ben, il est, comme en plus il a eu la lumière de la grâce, donc c'est un petit ange au ciel, son âme a tout de suite été dans la vie éternelle, mais s'il n'a pas été baptisé, alors en 1992, après une grande réflexion théologique, puisque certains voulaient même que si on n'était pas baptisé, on était damné. Donc il y a eu des discussions entre théologiens pour dire non, ils ne sont pas damnés, ils sont dans un bonheur naturel, vous voyez. Donc les uns voulaient qu'ils soient dans une froideur vis-à-vis de Dieu, et doux et punis. D'autres disaient non, ils n'ont pas de faute personnelle, ils sont aussi heureux qu'un homme honnête sur terre maintenant. Vous voyez. Si parmi vous il y en a qui sont en état de grâce, vous n'êtes pas en vision béatifique, eh bien vous êtes content, enfin vous êtes heureux, pour l'instant ça va. Voilà. Eh bien, les enfants morts sans baptême, ils pour des théologiens, étaient dans ce bonheur comme vous et moi.
Si, dans cette ancienne théologie, comment on pourrait justifier le fait des saints innocents?
Ah, parce que les saints innocents avaient été tués en haine du Christ, donc ils étaient martyrs. Non, mais c'est leur sang qui a été leur baptême. Oui.
Les adultes juste qui meurent d'ignorance invincible.
Mais eux, ils ont posé des actes libres et conscients.
Donc ils sont dans la vision béatifique ou ils sont.
C'est suivant ce qu'ils ont choisi. Oui. Et le bon Dieu nous donne toujours la grâce pour choisir le bien et l'amour. Mais il faut que notre liberté soit un minimum informée. Un bébé n'a pas, vous ne pouvez pas responsabiliser un bébé. Un bébé est là. Et vous avez un magnifique vase en cristal et il fait pum, 12 000 euros qui explosent. Et il vous regarde comme ça. Et là, vous lui expliquez, c'était une œuvre d'art. L'artisan l'a soufflé, l'a sculpté, c'était du cristal de roche et tout, machin. Ça coûtait 12 000 euros. Ou dollars. Eh bien, voyez-vous, on en plaisante, mais Jean-Paul II a eu le courage de dire théologiquement et dans le catéchisme universel, donc c'est le magistère officiel, on ne sait pas. Puisque les théologiens se disputent en ce qui concerne les limbes, on ne sait pas. On recommande à la miséricorde de Dieu les âmes mortes sans baptême. Ce qui fait que, voyez-vous, ça a été une consolation pour toutes les mères qui prient pour leurs enfants qui sont morts sans baptême. En fausse couche, en... Et donc cette mortification quand même plane sur nous. La vie est, voilà, vous êtes en bonne santé, mais dès qu'on est en mauvaise santé, c'est redoutable. Allez dans un hôpital psychiatrique et voyez un peu ce que c'est que la souffrance. Voyez, vous avez des gens, on se doute que c'est des sécrétions, des hormones, des choses qui vont pas, on sait pas encore, on essaye de trouver pour Alzheimer, pour tout ça, enfin, on cherche, on essaye de trouver. Bon, vous avez une proportion des personnes dans les hôpitaux psychiatriques qui sont des possédés. Ça, pour le coup, c'est dans la prière et dans l'exorcisme qu'on peut les délivrer. Mais à tous ceux qui vous disent « Oh, mais non, tous ceux qui sont schizophrènes sont des possédés », ben, doucement. Tous ceux qui sont cyclothymiques, qui sont bipolaires, qui sont maniaco-dépressifs, comme on disait, sont des possédés. Ben, non. Et ceux qui ont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, alors ils sont dépossédés, on ne s'en sort plus, vous voyez. Et donc il y a des maladies du cerveau, il y a des maladies de l'attention, il y a des maladies du souvenir, il y a des maladies de la mémoire, il y a la maladie de la vexation, il y a des maladies de l'orgueil, il y a des maladies de la jalousie. Et on est là à reprocher à Dieu d'être malade, d'avoir la peste, d'avoir des plaies purulentes. Quand Job, qui est un personnage qui pour moi a réellement existé, son récit est authentique et historique, il était heureux, il avait ses enfants, tout ça, il avait des bergers, il avait des champs, et il perd tout. Que Dieu soit béni, parce que ce n'est pas l'amour, c'est matériel. Mon amour pour mes enfants, qui ont été écrasés par le toit de la maison où ils étaient en train de festoyer, je vais prier pour eux. Job enterrait les morts, ou c'est Tobie qui enterrait les morts. Il voulait qu'ils aient une sépulture humaine. Dès qu'il y a homme, il y a sépulture et outils, ce que les animaux ne font pas. Et donc, voyez-vous, la sépulture, quelle belle religion naturelle que la sépulture. Quelle belle acceptation de la mortification involontaire qu'est la mort. La personne est morte, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la dispose, on la lave, on lui met du parfum, on l'enterre vite si on n'a pas de produit pour empêcher la décomposition. On l'habille, et on la met en terre, on la met dans un cercueil. Quel respect! Et c'est dans la loi. Au point que la mode instillée par un antichristianisme, hein, pas seulement pour des raisons pratiques et tout, puisque maintenant les services funéraires font payer aussi cher une inhumation en cercueil qu'une incinération. Ils sont pas dingues, hein, ils sont pas idiots. Hein, bon, voilà. Et donc, à un moment donné, on s'est trouvé avec la multiplication de l'incinération, alors que l'Église vous demande si vous n'avez pas s'il n'y a pas d'épidémie, si vous n'êtes pas ruiné, si vous n'êtes pas Si vous n'avez pas de caveau, tout ça, mais ça me coûte trop cher, je le mettrai dans une urne ou... Bon. C'est uniquement en cas de nécessité qu'on brûle un corps. On doit le laisser reposer. C'est le corps humain, quand même. Il a porté votre âme. Le premier qui brûle ma mère, vous voyez, quand ma mère mourra, le premier qui a l'idée de dire, ben, on va, ça sera plus pratique tout ça, de la brûler. Mais lui, il va brûler. Ah bon. Non, je veux que le corps de ma mère soit embaumé, si possible, tout ça. Voilà, enfin, c'est un corps humain, c'est pas un corps animal. Eh bien, voyez-vous, il y a la loi civile, on doit déposer les cendres quelque part. C'est légal. Même dans le jardin du souvenir, où vous avez une trace jaune dans l'herbe, c'est parce qu'ils ont mis la cendre, ils n'ont pas trop saupoudré. Du coup, ça fait un peu crever les brins d'herbe à l'endroit où il y a eu la cendre. Vous avez une trace, déjà, bleu. Alors parfois, c'est fait même exprès, mais c'est vraiment... C'est quoi? C'est le jardin du souvenir. Ouais. Vous avez des colombariums, alors maintenant vous avez des petits cubes comme ça, clac, 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 comme des immeubles, des HLM, vous voyez, donc là vous pouvez mettre 8, 10 personnes. Mais vous savez, on ne doit pas trop se moquer des rites funéraires, puisque vous avez en Italie, les cimetières sont aériens. Vous avez des murs avec des plaques, et le cercueil est rentré dedans. C'est les coutumes, les rites des différentes régions du monde. Mais même les plus terribles païens vont, à un moment donné, avoir un très très grand respect de la sépulture de leurs membres. En ce qui concerne les corps des esclaves dont on avait arraché le cœur et qu'on avait décapité, je pense que les Incas n'en faisaient pas beaucoup de... Comment dire, n'avaient pas beaucoup de respect pour ces corps-là. La violence. Les gens qui vous frappent, vous êtes innocent, on vous bouscule dans le métro, dans la rue. Mais la violence, comment dire, la mortification injuste par la jalousie, par la querelle familiale, par les gens qui ne se parlent plus, les gens qui se font des procès pour des successions. Est-ce que parfois vous ne préféreriez pas que, deux frères se giflent, se battent, se cassent la figure et puis se réconcilient, parce qu'ils sont battus comme deux ours, deux coqs, mais qu'ils n'aient pas trop plus de raisons de se quereller et tout ça, ils disent on a été idiots, que de ne pas se frapper, mais se faire un long procès et se détester copieusement. Vous voyez, la violence physique, c'est terrible, c'est vrai. Vous êtes torturé, les martyrs ont subi des tortures épouvantables alors qu'ils étaient innocents. C'était illégal en droit naturel. Hein, les martyrs des chrétiens, d'ailleurs, vous aviez des apologètes, qu'on appelait les apologètes, qui disaient au gouverneur romain, l'empereur romain, tu punis des gens en disant qu'ils sont contre l'équilibre de l'Empire, ou qu'ils font du mauvais esprit, ou qu'ils sont des comploteurs contre le pouvoir civil, mais prouve-le. On ne peut pas comme ça punir quelqu'un, condamner à mort quelqu'un, mettre en prison quelqu'un, sans qu'il se soit prouvé. Or, c'était totalement faux et exagéré pour les chrétiens. La Légion Thébaine, si vous avez, hein, d'après la tradition... D'après les chiffres romains, ils étaient 6 000. Une légion, c'était 6 000 hommes, hein, je crois. Ils ont été décimés. Ils avaient bouclier, armure et épée, hein, et casque. Hein. Et ils venaient de Thèbes, c'était des Égyptiens, des Coptes. Eh bien, ils ne se sont pas révoltés. Ils n'ont pas fait comme Spartacus. Et ils auraient pu. Hein. Vous voyez que c'était des soldats sans doute très aguerris. Ils se sont laissés tuer. Ils ont été décimés, hein, 10% par 10% jusqu'au dernier. Saint-Maurice étant leur général, et il est mort. Les martyrs de la Légion Thébaine. Mais le martyr moral, l'injustice, des personnes qui sont dans un emploi et qui sont méprisées, mis de côté, harcèlement moral et tout ça, pourquoi le bon Dieu nous permet une vie avec autant de mortification. Mais vous avez aussi, alors vous vous dites, oh mais je vais supporter ça parce que c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est parce que c'est mon voisin et tout ça. Et vous ne le supportez pas d'un conducteur. Vous voyez, on est un saint lorsqu'on arrête d'insulter ou de maugréer derrière son volant. Ben oui. Parce que la mortification de quelque chose qui n'avance pas, de quelque chose qui ne va pas, c'est quoi ça? Mais vous êtes le centre du monde au point que tout doit se... Que, comment dire, que vous avez trois motards devant vous pour vous ouvrir la route. Que Madame Hidalgo, comme maire de Paris, soit punie des peines les plus lourdes parce que elle provoque des embouteillages dans Paris. C'est vrai que c'est injuste, c'est vrai que c'est mauvais. Mais ça ne doit pas vous faire perdre votre paix, votre calme. Vous avez quelqu'un qui vous bouscule dans la rue et qui vous rebouscule. Vous avez quelqu'un qui fait du skate. Vous avez quelqu'un qui est sur ses roues autonomes là, qui et pan, il s'est pris un panneau. Voilà. Vous voyez, on réfléchit à mettre une amende pour ceux qui font du skate électrique sur le trottoir. Eh oui. Vous avez votre mère qui a 82 ans et qui est renversée par quelqu'un qui fait de la trottinette électrique. Et là, vous arrivez, vous dites, mais vous êtes complètement fou, vous êtes inconscient, vous vous rendez compte. Et votre mère en meurt. Et là, vous faites quoi? Hein? Comme les Corses. Vous comptez 5 ans, et 5 ans plus tard, ils traversent la rue et vous, poum! Ça se mange froid, c'est bien. C'est cruel parce que, vous voyez, juste avant, vous baissez la vitre et vous dites « Souviens-toi de Madame Intel que tu as écrasé, que tu as bousculé. » Quoi? Et pan! Et vous le tuez. Mais oui, mais voyez-vous, je plaisante, mais vous avez plein de petites vengeances que vous faites parce que vous n'aimez pas que ça aille mal, que vous soyez malade, que vous soyez humilié. En permanence, on juge. Hein, mon exemple favori, c'est la boulangère. Si vous avez une boulangère qui vous tire une gueule de 10 mètres de long, vous n'y allez plus. Mais imaginez que cette boulangère, justement, à cause de sa mauvaise humeur et de son caractère très désagréable, ait des difficultés financières. Et que tout le monde aille dans la boulangerie à côté. Et oui, mais elle a des enfants et tout ça. Bon, elle est acariâtre. Vous allez la punir, la punir, la punir. Il faut bien la faire travailler aussi. Non. Un commerçant, ça doit sourire, donc je n'irai jamais chez elle. Voilà. C'est sans pitié. Hein. Nous punissons et nous réagissons à tout ce qui nous mortifie, à tout ce qui nous blesse, à tout ce qui est injuste. Et quand vous voyez un enfant de 10 ans qui était super gentil, tout ça, qui disait de chapeler avec vous, ça, on vous annonce qu'il a un cancer. Là, vous dites, et là, c'est à qui que vous allez... faire des reproches? Bah, à Dieu. Et là, vous remontez toute l'histoire humaine, vous remontez le péché originel, les guerres, les haines, les morts, les maladies, tout. Pour les autres, oui, mais pas pour mon fils. En plus, c'était un saint, il disait le chapelet, il me disait qu'il voulait entrer au séminaire. Mais justement, maintenant, nous allons passer à notre dernière partie. Thank you.